Nous avions commenté dans l'enregistrement précédent le conseil donné à l'épouse, parti d'un conseil double dans l'Épître aux Éphésiens, un conseil qui est donné à la fois d'un côté à l'épouse et d'un côté à l'époux, et nous avions dit que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre, et que ce conseil double était sous le chapeau de « Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés », par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Il y a d'abord un chapeau de soumission mutuelle dans l'amour, par amour du Christ. Nous avions observé le conseil donné à l'épouse, et je voulais rajouter une petite nuance, c'est que quand bien même on prenait l'exemple de l'obéissance, de la soumission de l'Église au Christ, pour évoquer la soumission de l'épouse à l'épouse, on remarquera quand même qu'il n'y a pas une égalité stricte qui est faite entre le Christ et l'époux. Et une petite nuance des précisions qu'on apporte dans le texte qui manifestent bien la différence. On dit notamment dans le texte que le Christ est le sauveur du corps qu'est l'Église, mais justement on ne dira pas de l'époux qu'il est le sauveur de son épouse. Il y a bien une nuance. Il faut la remarquer pour justement ne pas retomber dans les caricatures du texte qui sont si courantes. Une petite remarque préliminaire. Le conseil qui est donné à l'époux, lui, concerne l'amour. Ce sera Marie, aimez votre épouse à l'exemple du Christ. Et on pourra remarquer que le conseil qui est donné à l'époux est plus long que le conseil donné à l'épouse. Voilà, il est plus long. Il avait besoin de dire peut-être plus de choses, à la fois dans la même logique que je disais précédemment, un conseil, c'est pour éviter un mal, et c'est aussi en vue d'un bien. Eh bien, lisons le texte lui-même. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en le purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagné d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. Alors la première chose qu'on peut remarquer, c'était que si précédemment c'était vertigineux pour l'épouse de remettre sa vie dans les mains de l'époux, cela ne l'est pas moins pour l'époux qui doit se livrer pour l'épouse comme le Christ s'est livré pour l'Église, c'est-à-dire jusqu'à mourir sur une croix. Et on se rendra compte que cette façon de se livrer est tout centré pour le Christ vers l'Église et donc doit être tout centré pour l'époux vers l'épouse. On nous dit que le Christ voulait que cette Église soit sainte, la purifiant par l'eau du baptême. Il la voulait sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est vraiment son bien à elle qui est en vue. Comme le Christ livre sa vie pour le bien de l'Église, l'époux est appelé à aimer en livrant sa vie, toute sa vie, comme le Christ l'a livré pour l'Église. C'est aussi vertigineux, c'est aussi extraordinairement exigeant. On va découvrir là le bien qui est recherché, parce que si c'est le bien de l'Église que le Christ recherche, et donc c'est le bien de l'épouse que l'époux recherche, cela doit se faire en respectant ce qu'est réellement l'épouse. Et de la même façon que le Christ va donner à l'Église de participer à sa mission, de prendre sa place et de prolonger sa mission, il va tout lui donner en se donnant lui-même, et bien de la même façon, si l'époux doit prendre soin de l'épouse, ça signifie prendre soin d'elle, de respecter ce qu'elle est avec sa capacité de réflexion, avec sa capacité d'organisation, avec sa capacité propre, personnelle et particulière, on pourrait dire féminine, de regarder l'univers. Et c'est donc en prenant soin de tout cela, en prenant soin, en faisant appel, en les mettant en œuvre, et non pas en la considérant comme une sorte de bibelot. Sois belle et tais-toi, tu fais partie des beaux objets que je veux avoir dans mon existence. Mais dans ce cas-là, la femme ne serait pas respectée. Elle n'est ni un objet, elle n'est ni une perpétuelle mineure. Elle est l'aide qui lui est donnée, qui lui permet d'advenir aussi à lui-même. Donc, livrer sa vie pour son épouse, c'est lui donner de prendre toute sa place à son côté, de faire appel à cette intelligence, cette sensibilité, cette capacité d'organisation particulière qui est la sienne, et de lui donner d'être associé à tout son projet. Et j'allais dire pas simplement de lui donner d'être tout associé à son projet, mais de comprendre que son projet, on pourrait dire en tant qu'homme, c'est aussi que sa femme puisse déployer la plénitude de sa vocation. Voilà. C'est pas simplement la femme doit me donner un coup de main pour réaliser mon projet, c'est que le projet de Dieu est pour un déploiement de la vocation de l'homme et de la femme, et donc que l'homme doit rentrer dans ce plan de Dieu et donner à la femme, donner à sa femme, de déployer toute sa vocation avec son originalité propre. La suite du texte va manifester le mal que l'on veut éviter. Le conseil à l'époux continue ainsi. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Le mal que l'on veut éviter ici, c'est une crainte qui peut saisir l'homme, la crainte que, en aimant sa femme, il se perd. En prêtant attention à sa femme, en s'ouvrant à elle, en ne faisant, on pourrait dire, qu'un avec elle, il va se perdre. Et que, du coup, justement, il veuille la tenir à distance, ou en tout cas, il refuse de s'ouvrir à elle. Et l'on insiste justement, non, tu ne te perds pas en aimant ta femme. Aimer ta femme, c'est comme aimer ton propre corps. C'est ta propre vie que tu vas faire, grandir, dont tu vas prendre soin. Donc aimer ta femme, c'est en fait aimer ta propre vie. En aimant ta femme, tu aimeras ta propre vie, bien loin de te perdre. Tu vas t'accomplir, tu vas te trouver. Le chemin de l'amour pour sa femme est donc non pas un chemin où il se perd, mais un chemin où il trouve, où il accomplit sa vie. Dans le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », on trouve un écho à cela, un écho pratique. Lorsqu'on compare la capacité de l'homme masculin, la capacité à l'intimité, à une sorte d'élastique qui se tend et qui se détend, en insistant sur le fait que l'homme est capable de s'ouvrir, d'ouvrir son intimité, et puis qu'à certains moments il a besoin de prendre du recul, mais qu'il ne faut pas que la femme ait peur que l'homme prenne de ce recul, parce que ça lui permettra en fait cette distance de pouvoir revenir. Il a besoin de temps en temps de s'arrêter, de faire le point, de revenir en lui-même, avant de pouvoir partager à nouveau. Eh bien, il y a un écho de cette particularité de l'homme qui peut avoir l'impression que, justement, partager cette intimité, c'est un lieu où il va se perdre. Et le conseil donné à l'époux est un conseil qui va lui permettre de déployer, à la fois de devenir, je pourrais dire, propriétaire de son intimité, de pouvoir la nommer, de pouvoir y mettre des mots, et de la partager volontiers à son épouse. Que ce n'est pas un lieu où il va se perdre, se dissoudre, mais au contraire, accomplir aussi ce qu'il est. Saint Paul termine le texte ainsi, « Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. » En ces quelques mots, saint Paul évoque une chose très profonde, Il est en train de dire que le rapport entre l'homme et la femme, et on pourrait même dire l'existence de l'homme et de la femme, a en fait un modèle qui le précédait dans la pensée de Dieu, quand bien même historiquement dans l'histoire des hommes, ça s'est produit après, mais dans le cœur de Dieu, le mystère du Christ et de l'Église, le rapport du Christ et de l'Église précédait la création de l'homme et de la femme. La création de l'homme et de la femme, les rapports de l'homme et de la femme sont en fait calqués sur le rapport du Christ et de l'Église dans le cœur de Dieu. Cela nous révèle quelque chose de très fort quant à la dignité du mariage. Voilà, le mariage n'est vraiment pas simplement la ruse de la nature pour que l'espèce humaine se perpétue. Le mariage est vraiment un écho de ce qu'il y a de plus intime dans le cœur de Dieu. Et donc le mariage et les conseils qui sont donnés à l'époux et à l'épouse ne peuvent se comprendre que dans la logique de l'amour. Si l'on est dans une logique de pouvoir, jamais alors cela ne peut être compris et ce qui sera dit sera repoussé, refusé comme dangereux. De la même façon qu'au cœur de la Trinité, c'est une logique de l'amour. Au cœur du mariage, le conseil à l'époux et à l'épouse ne se comprennent que dans une logique de l'amour. Et dans cette logique de l'amour, on peut même dire que ça ressemblerait à ce qu'on peut appeler un équilibre instable. Vous savez, un équilibre stable, c'est vous poser à plat un livre sur votre table. Eh bien voilà, il ne bouge plus. Un équilibre instable, c'est au contraire, vous prenez votre table et vous prenez deux livres, et puis les deux livres, vous les mettez en équilibre l'un contre l'autre. Et voilà, c'est-à-dire que si vous ôtez un livre, l'autre tombe. Ils ne tiennent en place que parce qu'ils sont justement appuyés l'un contre l'autre. Eh bien, le conseil de l'époux et de l'épouse, c'est, on pourrait dire, un équilibre instable dans la logique de l'amour. Il ne tient bon, il n'est possible que parce que l'un s'appuie sur l'autre, que parce que l'un se donne pleinement à l'autre. C'est dans cette logique de l'amour qu'il trouve son sens, et en dehors d'elle, en particulier dans une logique de pouvoir, il demeure incompréhensible. Tâchons pour conclure de reprendre les principaux éléments que nous avons évoqués. Le conseil aux époux est d'abord placé sous le chapeau d'une soumission mutuelle dans l'amour. On met au service de la vie de l'autre nos qualités, notre puissance, nos ressources. Cela à l'image du Christ qui met sa puissance au service de la vie de l'humanité. Ensuite, la soumission de l'épouse à l'époux. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets mes décisions entre tes mains. Et non pas par déficit d'intelligence, non pas par déficit d'initiative, mais pour susciter ta générosité, ta responsabilité, pour éviter aussi le piège d'une volonté de contrôle absolu qui ne laisserait pas l'autre grandir, qui ne laisserait pas l'autre découvrir, éprouver sa liberté. Du côté de l'époux, le don de sa vie jusqu'à la mort sur la croix pour le bien de l'épouse, c'est ce qui est demandé. L'époux a le soin de l'épouse, l'époux a le bien de l'épouse en vue, et cela passe par la prise en compte de toutes les ressources de l'épouse. Ça passe par la recherche de son conseil, ça passe par la recherche de son point de vue, de son analyse, de ses désirs. Elle n'est pas un moyen, un instrument qui serait remis à l'époux, elle est co-héritière du royaume qui lui est promis. S'ouvrir à elle, lui ouvrir ses sentiments, lui ouvrir son intimité, ce n'est pas pour l'époux se perdre, mais au contraire, avoir la possibilité de s'accomplir. Voilà ce que je voulais dire au sujet de ce texte. Et chers amis, j'ai bien conscience que c'est un texte qui est difficile. Et donc, je vous saurai gré si vous avez des questions, des résistances, de me les faire parvenir pour que je puisse travailler, peaufiner, éclaircir l'enseignement qui vient de ce texte. Donc par avance, merci de vos retours.